Bonjour. Je pars de l'actualité et de cette crise sanitaire liée au Covid-19 pour vous parler ensuite un peu plus vastement de la respiration et du souffle tels qu'ils sont vus dans la pratique du yoga. On a déjà une petite lecture symbolique de ce que nous traversons, le nom déjà qui a été donné, Covid-19, en langue des oiseaux, qui c'est une langue utilisée par certains ésotéristes, une langue entre guillemets, disons que c'est une façon d'écouter et de transcrire d'une façon phonétique. Ça existe dans toutes les langues et là, en étant français, on va utiliser notre référentiel habituel. Donc dans Covid-19, on entend co, vide, puis le 1 et le 9. Co, ça veut dire avec, ça veut dire ensemble. Vide, ça signifie sans matière, sans forme. Le 1 et le 9, on peut les entendre comme le premier et le dernier chiffre, comme l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin. Ou plutôt, là où on en est, on dirait la fin puis un début. Voilà. Donc, ce que j'entends, moi, dans tout ça... Alors, parler un petit peu du vide aussi. Dans notre société occidentale qui a beaucoup d'agitation, beaucoup d'activité, la notion de vide n'est pas forcément positive, mais dans toutes les traditions où on recherche par l'intériorité, le vide, c'est l'espace fertile, en fait. C'est l'espace du tout possible. C'est du vide que toute chose émerge. Et c'est là qu'elle retourne également. C'est l'espace indicible pour une conscience humaine. C'est inconcevable. Et également, ce vide, on peut le considérer comme étant l'état méditatif, c'est-à-dire un état de tout possible, de toute disponibilité, un état où rien n'est manifesté, où il n'y a pas de forme présente, et c'est ce qui permet à toute chose d'en émerger. C'est un état aussi que l'on peut vivre plus ou moins profondément, plus ou moins complètement. Donc avec cette explication, j'entends évidemment Covid-19 comme une invitation à se rejoindre dans cet espace de vide fertile, dans cet espace méditatif qui n'est pas personnel. On pourrait aussi l'appeler l'espace de la conscience pure. C'est un espace ou un état auquel on peut se relier, que l'on peut rejoindre par certaines pratiques ou par certaines attitudes. Peut-être par rapport à cette notion de co-vide, de fréquenter ensemble cet espace vide, une image qui peut aider, une image bien simple à comprendre, qui est celle de l'océan, où quand on est au-dessus, on en voit la surface et les vagues. Et on pourrait dire que chacun de nous, chaque être vivant, est une vague, une expression particulière avec une forme particulière, une taille particulière, une dynamique particulière, un bruit particulier, un temps de vie, un début, une naissance de la vague, et puis le moment où elle retourne à l'océan, où la forme vague disparaît. Donc on pourrait considérer que chaque forme vivante est une vague, et finalement, là d'où tout émerge, c'est là où il n'y a plus de différenciation, on pourrait dire au fond de l'océan. Il ne semble pas y avoir de mouvement particulier. Et tout est uni. Toutes les molécules d'eau, on ne voit pas de différence d'expression à cet endroit-là de l'eau. Mais tout est de l'eau, hein, que ce soit les vagues à la surface ou le fond. Tout est de l'eau, tout est de la vie. Tout est un potentiel, plus ou moins exprimé ou pas, plus ou moins différencié ou pas. Donc se retrouver ensemble dans l'espace du vide, aller ensemble dans la méditation. Quand je dis ensemble, je le pense à très grande échelle, c'est-à-dire qu'on est tous sur toute la planète plus ou moins confinés, isolés. Et comme je l'ai lu, si tu ne peux pas aller à l'extérieur, va à l'intérieur. Et selon une phrase bien connue, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est comme une notion que tout est holographique, hein, tout est dans tout. Et si on va dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment intime de soi, on y trouve la grande vérité, si on veut. Si on veut l'appeler comme ça. Donc, aller ensemble, quand j'entends ensemble, c'est que chacun peut le faire, chacun est libre de le faire. Et quand on trouve cet état-là de méditation, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de moi. Il y a juste la vie qui s'exprime et cette forme particulière que nous sommes qui en fait partie quelque part pour un moment. On rejoint le grand flot. Et dans ce grand flot est la grande sagesse où tout est respecté, où il ne peut pas y avoir de gestes, d'actions qui ne respectent pas l'ensemble du vivant, qui ne connaissent pas les grandes lois universelles. Voilà, pour moi, Covid, c'est une invitation à ça, planétaire. Et 19, je ne vais pas énoncer un scoop en disant que nos sociétés sont à bout de souffle. Bien sûr au niveau écologique, mais tout en découle aussi. Et que peut-être on arrive à la fin d'une certaine façon de faire pour, par la force des choses, devoir envisager autre chose. Voilà, même si évidemment ça ne peut pas, ce mouvement ne peut pas se faire d'une façon rapide. Il y a bien sûr une force de résistance ou d'inertie. Mais à mon sens, on est dans un grand tournant. Voilà, donc aller dans le vide avec cette conscience et cette disponibilité à mourir pour permettre une renaissance. À mourir à ce que nous croyons être pour permettre une renaissance. Après cette analyse symbolique de ce mot Covid-19, je vais m'orienter vers le fait que cette maladie touche le système respiratoire. Alors la respiration, c'est un échange, c'est un rythme aussi. Et je dirais que c'est un échange qui nous dépasse largement, puisque ce qui entre en nous, comme le fond de l'océan, n'a pas de limite, l'air n'a pas de limite, il voyage sans frontières. Et finalement, inspirer, c'est prendre en soi une partie du vaste monde. Expirer, c'est rendre à ce vaste monde quelque chose que l'on ne garde plus en soi. Donc au-delà de la respiration physique, je dirais que la respiration physique est une manifestation la plus concrète de tas d'échanges plus subtils, alors qu'ils se trouvent déjà à l'échelle de notre corps. Toutes les cellules respirent, toutes les cellules de notre corps ont un échange d'oxygène entre l'intérieur et l'extérieur, et elles ont également un mouvement de contraction et d'expansion. Ce mouvement contraction-expansion existe à toutes les échelles. C'est un des grands mouvements de la vie. Donc la respiration la plus visible, c'est celle qui se fait à travers nos poumons, mais elle n'est que la plus visible et la plus physique. Au passage aussi, envie de dire que cet arrêt de nos sociétés est tout à fait en parallèle de ce que je viens de décrire, de la respiration. Alors on parle de crise économique, crise sanitaire qui amène une crise économique. Qu'est-ce que l'économie ? L'économie, c'est un échange de flux, un échange de flux, de valeurs, de richesses, qui malheureusement, au niveau le plus courant, est prise comme un échange de valeurs matérielles et de certains types de valeurs. Mais on parle aussi d'économie domestique, par exemple, hein, comment on gère une maison, une maisonnée, une famille dans la maison. On parle aussi d'économie dans les écosystèmes. Donc dans un sens plus vaste, l'économie, c'est un système d'échange de flux et de valeurs. Et ici, nos économies, on va dire des pays, sont complètement ralenties. Tous les échanges sont ralentis, que ce soit au niveau individuel ou au niveau plus vaste. Peut-être pour nous inviter à nous arrêter sur ce que produisent les échanges, tout type d'échanges, sur notre façon d'y prendre part, avec plus ou moins de conscience. Voilà, c'est juste un sujet de réflexion que j'avais envie de partager. Je reviens à la respiration, qui est un système d'échange également elle-même. Je vais prendre le mot souffle qu'on utilise le plus souvent dans les pratiques énergétiques comme le yoga ou le qigong. Souffle ne désigne pas seulement la respiration physique, pulmonaire, diaphragmatique. Souffle vient du mot anima, mot latin anima, qui veut dire l'âme. Et anima veut dire à la fois l'âme et le souffle. Ce qui signifie assez bien combien notre respiration est bien au-delà de la fonction physique de respiration. Puis il y a pas mal d'expressions autour du souffle, comme « être inspiré », qui indique de recevoir une information ou un élan de plus vaste que soi, d'ailleurs. Et puis, il y a l'expression « rendre l'âme » ou « rendre le dernier souffle », qui signifie mourir, la fin de cette vie humaine. Donc le souffle qui à la fois ne dépend pas de nous puisqu'on ne peut pas volontairement l'arrêter, on ne peut pas, on a une certaine marge de manœuvre où notre volonté peut agir et transformer, modifier le souffle, marge de manœuvre qu'on utilise beaucoup dans les pratiques énergétiques, mais elle est limitée. Je dirais dans un premier temps que le souffle ne nous appartient pas, qu'il est impersonnel. D'où mon invitation à mettre de la conscience. Alors bien sûr, on ne peut pas faire ça toute la journée, mais pour que cette conscience soit là plus souvent, ça peut changer beaucoup de choses. Savoir que chaque inspiration et comme un premier souffle, comme une naissance, et comme un cadeau finalement. Comme le cadeau de la vie qui nous est donné. On n'a rien fait pour ça. On n'a rien eu à mériter pour être en vie. Et on n'a rien à mériter pour inspirer à chaque fois. Pour recevoir ce cadeau vital dans notre organisme. Et chaque expire également est une invitation, une occasion d'apprendre à mourir. La naissance et la mort n'étant que des passages d'un état à un autre. Et si on considère qu'à chaque expire on meurt, c'est ça qui permet la naissance qui suit, l'inspire qui suit. On ne peut pas inspirer si on n'a pas vidé d'abord. On ne peut pas renouveler sans avoir renoncé avant. Sans avoir abandonné, laissé partir avant. Donc pour moi, la respiration est un rappel à la gratitude pour la vie qui est offerte et au détachement. Avec cette conscience que la vie ne nous appartient pas. Et que quand c'est l'heure de lâcher, autant le faire, on verra bien ce qui se passe après. Et c'est là le plus grand potentiel, de savoir lâcher. C'est ce qui permet le plus grand renouveau. Donc on n'a pas l'habitude de lâcher, nous, dans une société très productive, très rapide. Il peut y avoir beaucoup d'angoisse à cette invitation à lâcher, la peur de manquer, la peur de mourir. Mais regardez que ça se fait en nous plusieurs fois par minute par le souffle sans qu'on y prête attention. Et également nos cellules, les cellules de notre organisme se renouvellent. Alors chaque type de cellule a une vitesse propre, qui lui est propre. Mais au bout de, on dit que c'est 7 ans, je ne sais pas si c'est vraiment le chiffre, mais au bout d'un certain nombre d'années, il ne reste plus rien, on va dire 7 ans. Au bout de 7 ans, il ne reste plus rien physiquement, hein, au niveau des molécules et des cellules. De ce que nous croyons être 7 ans avant. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'identité ? Est-ce que vraiment l'identité se trouve au niveau physique ? Pour moi, non. L'organisme physique est une densification, d'énergie animée par une conscience. Voilà, et ce corps physique suit son propre cours comme une vague. Il naît, avance, se transforme et meurt. Finalement, c'est un processus qui a lieu évidemment depuis bien bien longtemps et sans l'intervention de notre volonté, ça se fait de toute façon. N'ayons pas peur, nous vivons dans ce mouvement. N'ayons pas peur de lâcher. Quelques mots encore sur le souffle tel qu'on peut le pratiquer dans le yoga ou le qigong. Juste rappeler ce qu'on peut faire, quelles sont les intentions qu'on peut avoir quand on pratique certains souffles. Il y en a qui visent à nettoyer, à purifier. Il y en a qui visent à apaiser, d'autres à dynamiser. Il y en a qui visent à réguler, à égaliser, à aller vers l'équanimité. Et quand je disais en premier lieu nettoyer, il ne s'agit pas seulement de détoxifier l'organisme physique, mais également de faire le clair dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos états en fait. Devenir plus limpide, plus disponible. Et encore une fois, cette limpidité, disponibilité ou vide n'est pas un manque. C'est un espace de tout possible. C'est ce que j'appelle le vide fertile, c'est l'espace d'où tout peut naître. À un niveau un peu plus vaste, nous sommes tous porteurs d'empreintes, de mémoires qui sont soit de cette vie-ci, de notre enfance, de notre passé, ou si on l'entend comme ça aussi, de transgénérationnel de nos ancêtres, ou on pourrait dire également transpersonnel, des liens invisibles que nous avons avec l'humanité, toute l'histoire de l'humanité et plus vastement même toute l'histoire du vivant. En tout cas, des mémoires nous emportons et le souffle, et elles ont une certaine... elles nous font fonctionner de façon automatique. Malheureusement... pour les mémoires qui nous gênent, il y en a qui sont positives, il y a des mémoires vertueuses qui vont dans le sens de ce que nous souhaitons profondément, puis il y en a d'autres qui nous gênent, qui semblent aller nous faire faire des choses à contre-courant de ce que nous souhaitons vraiment. Ces empreintes, on peut diminuer l'emprise qu'elles ont sur notre vie, aussi par le souffle, en modifiant notre état par le souffle, justement dans cet espace disponible qu'on appelle aussi l'état méditatif. Qui est également la notion d'être présent à l'ici et maintenant. Ça ne veut pas dire que toutes ces mémoires s'effacent, mais elles n'ont plus d'emprise, elles ont moins d'emprise ou plus d'emprise. On peut les regarder d'une façon détachée. Et si vraiment cet état de détachement et de disponibilité se perpétue, à un moment elles n'auront plus raison d'être là. Elles peuvent aussi disparaître de votre vie. La respiration se trouve donc être la part médiane entre ce qui est tout à fait physique et concret, notre corps, notre organisme, et l'espace bien plus indéfinissable qu'est la conscience. C'est pourquoi le souffle est beaucoup utilisée dans les pratiques plus profondes, vers la méditation ou vers les transformations plus profondes. Aujourd'hui, je vous propose une pratique en mouvement, en déplacement, qui s'appelle la marche afghane, peut-être que certains la connaissent. Pratique simple sur laquelle on va marcher à un pas régulier, puis caler notre souffle sur ce pas. Ça peut être plus facile qu'une pratique en salle où on compte intérieurement parce qu'on a l'habitude de marcher dans un rythme régulier. Donc ça donne un support, la marche physique donne un support pour caler notre attention et notre souffle dessus. Donc voilà, je vais claquer des doigts, on va dire que c'est un rythme de marche. La marche afghane consiste à inspirer pendant 3 pas, suspendre le souffle pendant 1 pas, expirer pendant 3, suspendre pendant 1. Je le fais d'une façon sonore pour que vous vous rendiez compte, mais la véritable pratique se fait de façon tout à fait inaudible. Notez qu'il n'y a aucun blocage, par exemple, ça n'est pas. Le début et la fin de l'inspire comme de l'expire, on se fondre dans le silence, dans le temps de suspension qu'il y a avant et après. Je vous le refais encore une fois. Voilà, donc finalement, chaque inspire ou chaque expire va naître, croître, vivre, s'effacer, mourir, disparaître, pour laisser de l'espace à une naissance suivante. Voilà, donc vous pouvez pratiquer cette marche afghane de cette façon, qui est la façon telle qu'elle est donnée dans cette pratique-là, marche afghane. Mais si, alors aussi, toute pratique de souffle a son intérêt dans le fait qu'elle puisse être maintenue pendant un certain temps. Il ne s'agit pas de battre des records et d'aller toujours plus loin. Il s'agit de pouvoir se poser dans quelque chose qui va trouver de l'aisance. Donc si vous trouvez ça sur ce rythme 3-1-3-1 et que c'est peut-être un peu trop facile, vous pouvez faire évoluer. Ça dépend aussi bien sûr du rythme de votre marche. Donc si vous êtes à l'aise dans ce 3-1-3-1, au bout d'un moment, vous pouvez faire évoluer et augmenter soit le temps d'inspire et d'expire, passer à 4 par exemple, soit le temps de suspension. Vous pouvez ajouter un temps de suspension. Voilà, toute créativité est intéressante dans un cadre où on garde une régularité. Ça, c'est dans le souffle, c'est vraiment important de trouver cette régularité. C'est ce qui va impulser autre chose au niveau de notre psychisme aussi. Alors, je vous souhaite de belles balades et vous dis à une prochaine fois. Merci pour votre écoute.